commencer les sujets pour moi, parce que je vais continuer un peu sur la foi, moi. Et exactement, lui, il a commencé en disant qu'il faut parler. C'est vrai qu'il faut parler à nos montagnes. Oh, comme on a vu mercredi, il faut prophétiser à la vallée doucement desséchée. Il faut lui parler. Mais un problème aussi qu'on a souvent, c'est comment on se voit. C'est vrai que des fois, on a une mauvaise image de nous-mêmes. Et comme nous, on se voit nous-mêmes, ce n'est pas comme les autres nous voient, et très 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 souvent, ce n'est pas comme Dieu nous voit. C'est vrai qu'on voit à travers des yeux complètement différents. Amen. Une histoire qu'on va voir pour avoir un exemple de comment on peut se ruiner la vie, on peut dire, en ayant une mauvaise image de soi-même, c'est l'histoire de quand Moïse, les 12 espions, a espié la terre promise. Et justement, il les a envoyés, et nous savons que 10 entre eux, ils sont rentrés avec un mauvais rapport, ou ce que la Bible dit, un rapport diabolique. Et justement, à Nombre, chapitre 13, il nous dit, au verset 31 et 32, vous n'avez pas besoin de les prendre, je vais vous les lire. « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ces peuples, car il est plus fort que nous. » Et comme le rapport il avait été vraiment décourageant, ils ont continué en disant, « Les pays que nous avons parcourus et explorés est une terre qui consomme les habitants. Tant à la population que nous y avons vue, sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants de nains. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. » Et c'est bien l'effet que nous avons fait. Mais comme ils ont pris, comme ils sont arrivés à des conclusions comme ça, comme ils ont pu dire, c'était un pays qu'ils allaient explorer, ils n'avaient jamais été là avant, et ils disent que cette terre consume ses habitants. Mais ils n'avaient jamais habité là-bas, comme ils auraient pu le dire, ils ne pouvaient pas savoir. En plus, ils ont dit, les personnes sont très grandes. C'est vrai. Leur stature, leur physique était grande. Et à côté d'eux, nous avons l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisons. Mais est-ce qu'ils ont parlé avec eux pour savoir quelle image qu'ils produisaient, c'était l'image des sauterelles? Non, ils n'avaient pas parlé avec les géants. Ça, ils étaient faits, toute cette idée dans leur tête. Mais personne ne lui avait rien dit. C'était l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. L'image qu'ils avaient, c'était une image, mais je suis sauterelle. Je suis tellement petit, je ne pourrai jamais m'attaquer à ces groupes de géants et conquérir cette ville. On ne pourra jamais parce qu'on est comme ça. Mais qui est-ce qui a dit que vous êtes comme ça? Le Seigneur avait dit, va et prends possession de la terre. Il lui a pas dit, va et considère si tu peux la conquérir, si tu es assez fort, si tu as assez d'armes, si tu as assez d'hommes pour pouvoir aller la conquérir. Il n'a jamais dit ça. Il a dit juste, va et prends possession de la terre. Amen. Vous savez, on dit que c'est important d'être intelligent. Et c'est vrai. Des fois, c'est mieux d'être bête. Excusez-moi, hein, mais des fois, c'est mieux d'être bête. Des fois, il faut juste faire ce qu'il nous dit de faire. C'est si simple que ça. Il lui a dit, va et prends possession du terrain. Il n'a pas dit, va et considère, critique, analyse, fais une enquête de marché et tout le reste. Demande à tes frères et sœurs, à ta mère. Non, non, non. Il lui a dit, va et prends possession. Et c'est tout. C'est simple, hein. C'était vraiment pas sorcier du tout. Mais non, ça va marcher comme ça. Ah, désolé. Et c'est à cause de ça qu'on a tous cette jolie étude. Parce qu'ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient une intelligence, ils étaient en train de l'utiliser, mais malheureusement, ils étaient en train de l'utiliser pas du bon côté. Pas de la bonne manière. C'est ça le problème. Nous savons dans l'histoire que seulement deux des espions avaient l'attitude que Dieu voulait qu'il aille. Et ils ont dit, allons-y, faisons la conquête de ces pays, Caleb a dit. Car nous en sommes vraiment capables. Et cette histoire nous fait voir comme nous pouvons penser si différemment de nous-mêmes, à manière complètement différente. Le monde ne pense pas de la même manière que tu penses. Vous avez jamais essayé, vous mettez 10 personnes ensemble et vous essayez d'avoir tout le monde d'accord? Il n'y en avait que 10, hein? Vous pensez que c'était une nation entière, pas moi, 30 millions? Ouh, c'est compliqué là. Il y a toujours de l'opposition quand tu fais ou tu penses de la même manière que Dieu pense. Il y aura toujours, vous inquiétez pas. Vous n'aurez jamais tout le monde qui sera d'accord. Même pas dans l'église. Amen? Amen. Dès que les 10 espions ont vu l'opposition ou les défis, ils se sont tournés au murmure. Ils ont vu seulement les géants et ils ont manqué de voir Dieu dans tout ça. Et c'était ça la seule chose importante à voir. C'est que Dieu lui avait dit, va et prends possession du pays. C'est la seule chose qu'il avait dit. Ils ont manqué de voir Dieu, oui. Ce n'était pas les géants qui ont défié les peuples, mais c'était l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils avaient une mauvaise attitude, une fausse attitude sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont jamais arrivés à conquérir les pays et sont tous morts dans les déserts. Amen. Mais allons voir une autre histoire, en 2 Samuel. Vous savez, la Bible est pleine de jolies histoires. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, surtout dans l'Ancien Testament. Les personnes qui me connaissent savent que j'enseigne souvent de l'Ancien Testament, moi. 2 Samuel. Il y en a qui rient. Je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'on est dans les nouveaux, mais on peut apprendre tellement de choses dans l'Ancien. C'est pour ça que j'ai dit, bon, je sais qu'il y a certains chrétiens qui tendent à lire seulement les Nouveaux Testaments, et puis ils n'arrivent pas à lire l'Ancien. Mais vous savez, il y a tellement de belles choses dans l'Ancien Testament d'apprendre, tellement de leçons. Amen. Et en 2 Samuel, chapitre 9, on a l'histoire, bon, David est déjà établi sur le trône depuis un bon moment, et il se souvient d'un vœu qu'il avait fait avec Jonathan. Et le vœu, c'était que, bon, si un des deux aurait manqué, l'autre se serait pris soin de sa famille. Et justement, David, il est au pouvoir, il se rappelle du vœu qu'il a fait à Jonathan, etc. Et il fait chercher s'il y avait encore quelqu'un qui était survécu de la famille de David, de Jonathan. Et il trouve justement qu'il y a un fils de Jonathan qui est encore vivant. Et il s'appelle Mephibosheth. Et à partir du verset 6, on voit un peu la rencontre entre David et Mephibosheth. Verset 6. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et prosterna devant lui. David l'appela. « Mephibosheth, c'est bien moi, ton serviteur. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne veux pas plus qu'un chien mort. Ça, c'était l'image que Mephibosheth avait de lui-même. C'était un mauvais âge, vous voyez? Il pensait que c'était un chien. Il pensait, mais voyez, il ne s'y voyait quelqu'un qui allait être rejeté. Il avait vu la descente de son grand-père, de son père, et la seule chose qu'il voyait en lui, c'est que c'était un chien. Qu'il ne pouvait jamais arriver à quelque chose. C'était qu'un chien, qu'il allait être rejeté. Vous savez, les chiens qui nous dérangent, surtout ceux qu'on ne connaît pas, hein, on les chasse. Et c'est comme ça qu'il se voyait. Vous savez, la mauvaise image de nous-mêmes va nous faire opérer dans la peur à la place de la foi. Parce qu'on a peur des autres. On a peur d'être rejeté. On a peur que personne ne va nous comprendre. On a peur que personne ne va nous aimer. Et c'est comme ça qu'on agit. Nous regardons à tout ce qui est mauvais dans nous, à la place de regarder tout ce qui est juste en Jésus. Amen. Nous sommes en Jésus et nous sommes justes. Nous pouvons avoir l'image d'un chien mort ou d'une sauterelle, mais tous les deux vont vous affecter votre futur. Nous sommes où nous sommes par les paroles de notre bouche. Des fois on dit « je serai là à 4 heures », c'est une décision de prendre un rendez-vous à un temps spécifique. Ou on dit « je vais me marier », c'est une intention de se marier dans un futur proche. Je vais étudier ou je vais démarrer mon business. C'est un choix de ce que nous voulons faire dans notre futur. Je suis bon à rien ou je n'aurai jamais la même joie que cette personne a. Ce sont des conclusions qui sont contraires à ce que Dieu dit sur nous. La Bible nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et vous savez, souvent nous posons des limites à nous-mêmes par nos propres pensées et nos propres paroles. Vous savez que quand vous dites à vous-même, par exemple, je dis, oh je suis bon à rien, vous êtes en train de vous maudire, vous êtes en train de maudire vous-même. Vous ne mettez jamais des limitations à vous-même. Vous pouvez dire, à ce moment, je ne suis pas capable de les faire. Mais merci Seigneur, parce qu'avec lui, je suis capable. Amen. Peut-être en ce moment, vous n'êtes pas riche, mais comme a dit notre frère, parlez à la montagne. Il faut le dire. J'ai dit, oui, effectivement, mon compte en banque, probablement maintenant, il n'est pas grand. Il n'est pas dans l'abondance. Mais merci Seigneur, parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia. Parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Alléluia. Alléluia. C'est nous qui nous mettons des limitations à nous-mêmes. Et nous ne permettons pas au mieux de Dieu de succéder dans nos vies. Le Seigneur a du mieux pour nous. Alors, qu'est-ce que sont des limitations? Les limitations sont des restreints ou des restrictions. Une limitation est un point de démarcation ou de confins au-delà duquel quelque chose ne s'étend pas, on n'arrive pas. On dit dans notre vie, je peux arriver seulement à avoir, par exemple, la même position sociale que mes parents. Je ne pourrai jamais avoir de plus. Mais pourquoi? Vous avez limité votre grandeur sociale par la grandeur de vos parents. Mais votre parent est Dieu. C'est lui qui limite votre grandeur sociale. Ce n'est pas vos parents naturels. Amen. C'est Dieu votre limite. Et Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vraiment arriver où vous voulez avec lui. Mais il faut le croire. Alléluia. Une limitation est un point de démarcation ou des confins au-delà duquel les choses ne s'étendent pas ou n'arrivent pas. Signifie, ce n'est pas large ou élevé en but et en compréhension. Par contre, votre but, c'est le monde. C'est tout devant vous. Il n'y a pas de limite. Amen. Vous savez, même la frontière que vous avez à une heure d'ici avec les États-Unis, c'est les humains qui l'ont créé. Sûrement pas Dieu. Pas Dieu, parce que Dieu ne croit pas aux frontières. Dieu ne croit pas aux limites. C'est les humains qui les ont créés. Amen. Alors, un autre exemple biblique de comment se met des limites sur soi-même, c'est Gédéon. Ok? Gédéon. Alors, la situation de Gédéon est un peu différente parce qu'Israël avait été réduit à la faim par ses ennemis et était en train de crier à Dieu. Il était en train de dire, Dieu, écoute, cette histoire, ça ne peut pas continuer. Vraiment, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous libères de ces envahisseurs. Et Gédéon, qui avait une grande opinion de lui-même, était en train de battre les blés dans les pressoirs à raisin pour les cacher de ses ennemis. Pratiquement, Gédéon était en train de se cacher. Et en Juges 6, verset 12, on voit que l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Et les guerriers, ils se cachent. Il faut vraiment avoir les yeux de la foi pour le voir comme un vaillant guerrier, hein? Parce que lui, il était en train de se cacher dans les pressoirs, par contre. Et oui, des fois, c'est ça qu'on fait, on se cache, hein? On se cache derrière, ben, tu sais, j'ai pas vraiment un grand diplôme, tu sais, j'ai pas pu vraiment étudier, mes parents, ils ont jamais eu un grand argent, mon nom, tu sais, c'est pas un nom, c'est un autre commun, tu vois, on est juste des personnes normales, c'est ça qu'on dit, je suis juste une personne normale. Mais vous savez, Dieu, oui, c'est vrai qu'on est normal, mais le Seigneur, il nous a créés tous uniques. Amen. Et Gédéon était un guerrier. Le seul problème, c'est qu'il ne le savait pas. C'est pour ça qu'il s'est caché. Amen. Et combien de fois on se cache? Alléluia. On se cache des fois même dans notre église. Tu sais, c'est notre petite famille, je la connais. Tu sais, je ne sais pas moi, je commençais à faire ces petits services pour l'église, et puis bon, ben, je me trouve bien dans ça, et puis bon, ben, je vais rester dans ça pour le reste de ma vie. Parce qu'on s'est limité et on pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est ce petit service pour l'Église. Mais est-ce que vous avez demandé à Dieu si c'est tout ça que vous pouvez faire? Amen.
Amen.
Mais quelle chance que Dieu ne s'est pas arrêté à l'image ou opinion que Gédéon avait de lui-même. Et aussi, il n'était pas d'accord avec la mauvaise opinion qu'il avait de soi-même. Dieu, il les voyait avec des yeux différents. Et justement, un juge, on va reprendre l'histoire, un juge, chapitre 6, juge. J'apprends le français. C'est bien. Oh, non, mais ça, je pense que c'est français aussi, hein. Un juge, chapitre 6, à partir du verset 14. Et on va voir qu'est-ce qu'il raconte l'Éternel. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. Ce n'est pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « Des grâces, mon Seigneur, pitié !» Non, il n'y a pas pitié dans la Bible, je l'ai ajouté. Hein. « Avec quoi pourrais-je délivrer Israël ?» Ma famille est peu importante de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Excuse. C'était des excuses. L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tout ensemble. » Et Dieu, on voit que Dieu assura Gédéon qui sera avec lui. Il faut comprendre que Dieu a des bons plans pour notre vie. C'est vrai que des fois, il va nous demander de faire des choses qu'on dit, mais je ne pourrai jamais les faire, je ne suis pas capable, je n'ai pas la connaissance, je ne suis pas assez important, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas assez de connaissances. Et on peut continuer, je ne sais pas combien de temps vous avez, hein, mais on peut les remplir tous. Mais Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as, ce n'est pas moi qui t'envoie. Amen. Quand nous offrons à Dieu ce que nous avons, il nous donne ce qu'il a. Il prend tous nos péchés, nos erreurs, manquements et faillites, et il nous donne ses capacités, sa justice et sa force. Mais il faut lui donner. Amen. Il prend notre pauvreté et il nous donne sa richesse. Il prend nos maladies et infirmités et il nous donne sa guérison et sa bonté. Il prend nos manquements, nos passés remplis de faillites, et il nous donne l'espoir d'un futur lumineux. Alléluia. À nous-mêmes, nous ne sommes rien. C'est vrai, vous avez raison, vous êtes un petit rien. À vous-même. Notre propre justice est comme un linge souillé. Mais en Christ, nous avons toutes choses et un riche héritage entre les saints. Comme Paul, nous devons nous débarrasser notre passé et mettre nos yeux sur le futur. Nous tous, nous pouvons faire avec une amélioration de l'image que nous avons de nous-mêmes. Vous savez, le passé, ça s'appelle passé parce qu'il est passé. C'est vrai, il est passé. Vous n'êtes pas obligé de les revivre chaque jour de votre vie. C'est passé, terminé. Chaque jour se renouvelle. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter avec le Seigneur. C'est nouveau. Amen. Vous savez, Jésus a pris notre tromperie et nous a donné justice. En 2 Corinthiens 5, 21, il dit, « C'est lui qui est innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme un péché à notre place pour que nous, avec les Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Voyez, tous nos manquements, c'est Jésus qui les a pris. Et maintenant, Dieu nous voit à travers les yeux de Jésus et nous sommes justes. Tout le monde voit seulement nos fautes, mais Dieu voit nos possibilités. Amen. Nous devons marcher dans la réalité de cette vérité. Voyez vous-même de la même manière que Dieu vous voit aujourd'hui. Regardez vous-même à travers les miroirs de Dieu. Il faut développer la juste image de soi. Il faut voir soi-même à travers les yeux de Dieu et les seins du Christ. C'est comme ça qu'il faut se voir. Dieu fait sortir des miracles dans des erreurs. Peut-être vous pensez que vous êtes en erreur. Peut-être vous pensez que vous êtes au monde seulement parce que vos parents, ils n'avaient rien d'autre à faire ce soir-là. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'argent pour aller au ciné, et vous êtes arrivé. Mais vous savez, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas par erreur que vous êtes là. Parce que Dieu voit un miracle en vous. C'est pour ça qu'il vous a créé, c'est pour ça qu'il vous a pensé, c'est pour ça qu'il vous a voulu. Parce qu'il voyait les miracles que vous êtes. Dieu vous aime autant. Amen. Alors, quelles limitations avez-vous mis sur vous-même? Quelles limitations ceux autour de vous, ils ont mis sur vous? Combien de fois nos parents nous disent, « Oh, qu'est-ce que tu es bête, c'est pas possible. Comment tu as pu faire une bêtise pareille? Mais tu sais que j'étais appris, tu fais encore autant de bêtises. » Hein? Faut pas dire d'autres mots, ok? Je me suis limitée aux bêtes. Parce que des fois, ils n'utilisent pas les mots « bête ». Vous savez, mon père était routier et n'était pas sauvé. Et je peux vous dire, il n'utilisait pas les mots bête. Bon, mais je ne vais pas le répéter, hein. Les limites aux bêtes. Amen. Mais Dieu veut retirer les limites aujourd'hui. Tu dois te voir à travers les yeux de Dieu. Chacun est prenant droit d'être sur cette planète. Chacun. Amen. Il n'y en a pas un qui est ici par erreur qui aurait jamais à être né. Jamais. Et Dieu est venu pour nous donner plus qu'une vie médiocre. Il est venu pour vous donner une vie comblée. C'est pour ça que vous êtes là. Amen. Parce qu'on y croit à ça, vous savez. Ce n'est pas seulement un nom qu'on a donné à l'Église, mais on croit que vraiment les personnes devraient vivre dans la victoire et d'avoir une vie comblée. Une vie comblée de tout le bonheur que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Une vie supérieure. La vie Zoé. Que c'est la manière de vie de Dieu. C'est une vie abondante. Et pas seulement financièrement. Parce que vous savez, quand on parle de la prospérité, on pense seulement au côté argent. Mais la prospérité, c'est beaucoup plus que l'argent. Parce que vous savez, votre argent, quand vous êtes en train de mourir, vous ne faites absolument rien. Alléluia. Alléluia. Comment peux-tu arriver, alors comment pouvons-nous arriver au-delà des non-limitations? Vous devez croire que Dieu a des bons plans pour vos vies, avant tout. Vous devez croire que Dieu, que pour Dieu, ce que vous considérez impossible, c'est possible. Ouvrez vos yeux à la possibilité et ayez confiance dans l'habilité de Dieu, plutôt que dans les obstacles que le diable va vous mettre dans votre vie. Dieu est capable. Dieu, vous savez, comme il disait les pasteurs l'autre jour, Dieu a mis toutes les étoiles en place, toutes les planètes, toutes les galaxies, et rien ne tombe, vous avez remarqué? Tout reste là en place. Vous pensez qu'il ne peut pas mettre en place votre vie aussi? Je pense qu'il a assez de pouvoir pour le faire. Oui, je crois. Vous devez aller vers les problèmes. Marcher vers votre barrière. Vous ne devez pas faire comme Gédéon qui s'est caché dans les pressoirs. Ok? Il faut faire face aux problèmes. Ne vous limitez pas et surtout ne limitez pas Dieu. La foi est de l'action. Vous savez, vous pouvez parler autant que vous voulez, mais s'il n'y a pas des actions correspondantes, vous êtes juste en train d'utiliser votre souffle. Et c'est tout. C'est si simple. Jacques nous écrit, la foi sans les actions est morte. Dieu honore ceux qui l'honorent. Marchez dans la foi, dans les habiletés des dieux. Allons à Romains 12. Notre Seigneur est tellement bon. Il nous voit. Et pour lui, nous sommes tous des succès. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas encore là. Mais vous savez, il n'a pas encore terminé avec vous. Hein. Il est encore en train de travailler. Romains 12, verset 4. Il dit, « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. » Mais je vais vous lire la version « Les messages » parce que je trouve qu'elle est très bonne. « Depuis, nous nous trouvons modelés dans toutes ces parties du corps de Christ qui sont formées avec excellence et qui fonctionnent merveilleusement. Continuons pour être ceux que nous étions créés d'être. » Il dit « Continuons pour être ceux que nous étions créés être. » Nous devons devenir ce que nous avons été créés d'être. Mais il ne faut pas se limiter à ce que nous pensons ou ce que les autres disent. Nous devons découvrir ce que le Seigneur nous a créé d'être. Il nous a créé d'être des succès, des miracles, des personnes qui ont une vie comblée, abondante, prospère, pas des petits minuscule être qui survit. Les personnes, Dieu n'a jamais voulu pour nous de survivre. Jamais. Ça, c'est la mentalité du monde. On ne survit pas dans la vie. On vit et on a une vie victorieuse. Nous devons continuer pour être ce que nous étions créés d'être. C'est ça que nous devons découvrir. Dieu mérite notre mieux, non notre survie. C'est notre mieux qu'il mérite. Il a donné son mieux quand il vous a créé. Je sais que des fois, vous vous regardez au miroir et vous vous dites, il aurait pu faire un travail meilleur. C'est vrai, les cheveux ne sont pas toujours en place. Bouche trop grande, nos déplacés. Non, vous avez tous le nez au centre du visage, c'est bien. Mais vous savez, on se regarde, on se trouve trop petit, trop large, trop maigre. On n'est jamais content. Mais vous savez que Dieu... Il vous aurait jamais créé différemment de comme il vous a créé. Il vous aime tellement comme vous êtes qu'il n'aurait même pas changé un cheveu sur votre tête. Il vous a voulu exactement comme vous êtes. Il vous a pensé. Il a mis des siècles à vous penser pour vous avoir comme ça. Vous pensez? C'est pas un accident, hein? Vous n'êtes pas arrivé là juste par erreur. Hein? Parce que vos parents, ils n'avaient rien d'autre à faire. Non. Dieu, ils avaient déjà pensé tout ça, et il a fait à manière que vos parents, ils n'avaient rien d'autre à faire ce soir-là. Pour être sûr que vous allez être là. Amen. Vous êtes tellement important qu'il a tout mis ensemble à manière que vous êtes là, aujourd'hui. Amen. Et en plus, il a fait à manière que vous êtes partie de ma famille. Alléluia. C'est pas génial? Il vous a formé pour un but et il s'attend que vous fassiez votre mieux avec ce qu'il vous a donné. Ne laissez pas passer un autre jour. Commencez à découvrir ce que Dieu a toujours voulu pour toi et de le faire. Proverbe 18, 16. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Les cadeaux, les dons donnés par Dieu fera de la place pour vous. C'est vrai que vous, des fois, vous vous regardez comme un petit rien, mais les cadeaux, les dons, les talents que le Seigneur a mis en vous, les miracles qu'il vous voit, il fera de la place pour vous. Vous savez, des fois, on naissance, je ne pourrai jamais aboutir à des grandes positions, je n'aurai jamais des grandes places, je ne pourrai jamais faire des grandes choses. Vous inquiétez pas, vous ne devez rien faire. C'est le Seigneur qui fait. Vous savez, le Seigneur a votre adresse. Même sans les boutins téléphoniques, hein, il sait vous habiter. Mais, il n'a pas besoin de vous envoyer un email ou un fax, ou un coup de téléphone. Il sait vous habiter. Et il sait quand c'est le moment d'ouvrir les portes pour vous. Lui, il le sait. Alléluia. Amen. Alors, il faut découvrir notre don. Mais comment on peut le faire aussi pour le découvrir? Parce que des fois, on dit, ben moi, je n'ai pas vraiment... Alors, je ne chante pas. C'est vraiment aussi, je ne chante pas. Hein? Parce que si je chante, il n'y aurait plus personne là ce matin. Alors, je ne chante pas. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué... Moi, je prêche pas, j'enseigne. Je suis une enseignante. J'ai découvert ça dans ma vie. Mais là aussi, je ne savais pas au début. Hein. Alors, je ne savais pas. J'ai dit, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter. En plus, je suis femme. Petite, j'ai les talons aujourd'hui, je triche. Je fais que 5 pieds, c'est tout. Hein. Je suis femme. Je veux boucler. J'ai un accent. Je suis étrangère. C'est vrai, hein, c'est... Ah oui, ça va mal, hein? C'est vrai, Serge, ça va mal. Hein? Et c'est ça que je me suis dit pour longtemps. Je dis, le Seigneur, il ne pourra jamais m'utiliser. Parce que j'ai rien à lui donner. Qu'est-ce que je lui donne? C'est vrai, hein? Je ne chante pas, je n'aime pas les enfants. Vous voyez comme il vous chante? Le Seigneur sait faire du travail, je veux vous dire. Mais vous savez, le Seigneur a vu mon adresse. OK? Même si je m'étais cachée, parce que bon, j'avais quitté l'Italie, j'habitais en Angleterre, mais le Seigneur avait mon adresse, il m'était court derrière d'ailleurs. À la fin, il m'avait chopé finalement. Mais il avait mon adresse. Et c'est lui qui a ouvert les portes pour moi. Vous savez, les portes, il ne faut pas les descendre. Non, c'est vrai, des fois on pense, parce que tu dis, j'ai un don, j'ai un talent, personne ne comprend, personne ne voit, personne... Ah, tout le monde est contre moi. C'est ça qu'on dit, personne ne me comprend. Non, c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Il faut les laisser ou l'ouvrir aussi. Il faut être à sa disposition. Amen. Lui, il a votre adresse, ne vous inquiétez pas. Il sait où vous habitez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, avant tout, on va voir 3 choses qu'il faut faire. Il faut commencer par considérer vos dons et vos talents. Ah, il n'y en a pas de proverbe, là. J'ai dit, commencez par considérer vos dons et vos talents. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Qu'est-ce que vous avez à donner? Qu'est-ce que vous êtes capable à faire? Parce que tout le monde est capable de faire quelque chose. OK? Des fois, peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit. Des fois, il faut voir ce qu'on est capable de faire et commencer par là. Amen? La manière meilleure pour découvrir vos dons et vos capacités, c'est d'essayer avec des domaines différents. Essayez différentes choses, services. Si vous n'êtes pas bon, vous changez. Vous savez, si vous n'êtes pas bon, personne ne va vous mettre au mur et vous descendre. Hein? Surtout dans... On ne fait pas ça, ce n'est pas notre tactique, c'est notre manière d'agir. Hein. Mais vous pouvez essayer dans des domaines dans lesquels vous n'avez jamais essayé. Essayez, vous voyez que ça va. Qu'est-ce qu'il y a dans vous? Tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde. Une autre chose que vous pourrez faire, c'est de demander à 5 personnes qui vous connaissent ce qu'ils voient que vous êtes bon et capable à faire. Normalement, ils sont beaucoup plus objectifs que vous. Vous savez, les autres, ils vous voient avec des yeux complètement différents de ceux que des mêmes yeux que vous voyez. Et c'est avec ça qu'ils vont vous dire, mais tu sais, moi, je te vois bien à faire ça. Essayez, ça ne coûte rien. Amen. Une autre chose, considérez votre cœur et votre personnalité. OK? Ça, ce n'est pas difficile. Galates 6,4. On va voir ce verset. Galates 6, verset 4 dit: que chacun examine son propre comportement. S'il découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Voyez, ils disent, examinez-vous vous-même, examinez votre comportement. Et s'il découvre quelque chose de louable, et je suis sûre que si vous cherchez bien, vous allez découvrir quelque chose, il pourra en avoir de la fierté. Mais pas parce que, oh, moi je suis tellement bon, ok? Mais c'est parce que c'est les dons que le Seigneur vous a confiés. C'est là votre fierté. Parce qu'il vous a fait, il vous a fait confiance avec quelque chose de vraiment particulier. Mais la version du message dit, faites une exploration attentive de ce que vous êtes et du travail qui vous a été donné. Et alors plongez dans ça. Quand vous avez fait un examen, vous pouvez plonger dans ce que vous avez découvert. Amen. Ils disent, découvrez votre personnalité. Regardez ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez faire? Votre personnalité. Si par exemple vous êtes une personne de celles timides, qui ont des problèmes à dire bonjour et de donner la main à tout le monde, c'est sûr que je ne vous vois pas en train de faire l'accueil. Ce n'est pas votre place. Ok? Il faut voir aussi, ben oui, il faut être logique dans la vie. Il faut voir que c'est comme c'est votre personnalité. Parce que chaque personne est différente et chaque personne est bonne à faire quelque chose. Amen? Mais il ne faut pas vous mettre au mauvais endroit. Si vous êtes timide, on ne va pas vous mettre à la porte à dire bonjour à tout le monde. Parce que toutes les fois qu'il entre quelqu'un, vous serez angoissé. Et ce n'est pas ça du tout. Amen? Alléluia. Une autre chose très importante, examinez vos expériences et extrayez les leçons que vous avez apprises. L'expérience de votre vie. Ça, c'est très important. Là, on va rester un moment parce que je trouve que c'est important parce que c'est votre vie qui vous a formé. Ce que vous êtes en ce moment, c'est le résultat de votre vie. Et personne d'autre peut être comme vous. Personne d'autre. Parce que personne d'autre a eu la même vie que vous avez eue. OK? Chacun est différent. Alors, révisez votre vie et pensez à comment elle vous a formé. Et vous savez, c'est à travers votre vie que vous allez aussi changer. Regardez, Moïse aux Israélites, en Deutéronome 11, vous savez ce que l'Éternel vous a appris. À travers vos expériences, l'Éternel vous a appris des choses dans votre vie. Amen. Mais les expériences oubliées sont des expériences sans valeur. C'est vrai que Paul il nous dit d'oublier les passés et de vivre dans les présents. Mais il faut apprendre de notre passé et pas les revivre. C'est pour ça qu'il dit les expériences passées, s'ils sont oubliées, ça ne vaut rien. Ça veut dire que vous n'avez rien appris. Amen. Les expériences, même les mauvais moments, ok, c'est des mauvaises situations, mais qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette expérience? Amen. C'est pour ça que c'est bon de tenir un journal spirituel. Comme ça, on n'oublie rien. Il y a 6 types d'expériences que vous passez dans la vie qui vont vous former pour servir Dieu. 6. Les premiers, c'est les expériences familières. Qu'est-ce que vous avez appris en grandissant dans votre famille? Vos parents, ils vous ont formé pour quelque chose. Bon, déjà, ils vous ont appris de bonnes manières. Amen. Mais ils vous ont formé pour quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris dans vos expériences familières? Deuxième, qu'est-ce que vous avez appris dans vos expériences éducationnelles? Quel était votre sujet favori à l'école? Il faut faire un sondage des fois. Mais il faut faire un sondage de soi-même. Amen. Troisième, vos expériences vocatives. Dans quel travail vous avez été le plus effectif et qu'il vous a plu de plus? C'est inutile de vous mettre à faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Amen. Au moins que le Seigneur vous est en train de vous apprendre quelque chose. L'obéissance.
Quatrième, vos expériences spirituelles. Quels ont été vos moments avec plus de signification avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Qu'est-ce qu'il a essayé de vous passer comme message? Qu'est-ce qui vous a mis à cœur? À travers quoi vous êtes plus touché? Amen. Il faut tout tenir en considération. Cinquième, vos expériences ministérielles. Comment avez-vous servi Dieu dans le passé? C'est quoi les résultats que vous avez obtenus? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a touché de plus? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Amen. Qu'est-ce qu'il faut changer? Parce que des fois, on essayait avec un bon cœur d'aider quelqu'un et la personne n'a pas compris, il a réagi différente de ce que vous aurez espéré. Amen. La sixième, et ça c'est la plus importante, c'est vos expériences douloureuses. Quel problème, quelle douleur, quelle épine ou test avez-vous appris de plus? Vous savez que c'est dans vos moments difficiles que vous apprenez de plus? Vous savez, dans les moments faciles, il n'y a rien à apprendre. Tout ça va bien. Amen. Mais c'est dans les moments difficiles qu'on apprend. Ce sont bien les expériences douloureuses que Dieu veut utiliser de plus pour vous préparer au ministère. Dieu ne gaspille jamais une douleur. Jamais. Voyez-vous, j'arrive pas à parler. Voyez-vous, entre le vous et le vous, c'est pas facile, hein? Personne ne peut être vous. La plupart des grands ministères sont sortis des plus grandes souffrances et douleurs des gens. Dieu permet que vous passiez à travers des choses pour vous équiper pour faire du ministère aux autres. Ça va être là votre expérience, ça va être là votre col, ça va être là votre bagage. Amen. La Bible nous dit, il nous réconforte dans tous nos problèmes, comme ça nous pouvons réconforter les autres. Quand les autres sont troublés, nous pouvons lui donner le même réconfort que Dieu nous a donné, parce que nous avons passé par la même expérience. Les mêmes expériences que vous avez regrettées, ou que vous avez eu du ressentiment dans votre vie, celles que vous voudriez cacher et oublier, vont être les mêmes expériences que Dieu veut utiliser pour aider les autres. Elles sont votre ministère. Mais, à manière que Dieu peut l'utiliser, vous devez vouloir les partager. Vous devez arrêter de les couvrir. Et vous devez admettre honnêtement vos erreurs, vos manquements et vos peurs. Le faire sera probablement votre ministère le plus efficace. Parce que les personnes ils vont se reconnaître dans ça. Et les personnes ils vont comprendre parce que vous êtes passé par là, vous pouvez comprendre. Et c'est là qu'ils vont s'ouvrir à vous. Ils ne vont jamais s'ouvrir à quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes douleurs ou la même peine. Et la personne qui est passée par là, elle sait, oui, elle va me comprendre. Je peux lui parler, je peux lui dire. Amen. Les gens sont toujours plus encouragés quand nous partageons comme la grâce de Dieu nous a aidés dans nos moments de faiblesse, plutôt que quand nous exagérons sur notre force. Ce que vous passez à travers, ce n'est pas seulement pour vous. Seulement les expériences partagées peuvent aider les autres. C'est que vous cachez, ça ne sert à personne, mais pas à vous. Parce que ça va rester dedans et ça va vous manger. C'est pour ça que c'est important de les faire sortir. Aldous Huxley a dit, les expériences ne sont pas ce qui vous est arrivé, c'est ce que vous faites avec ce qui vous est arrivé. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez été passé? C'est avec ce que vous avez. Non, que vous étiez. Non, que vous êtes passé à travers. J'ai mon verbe, voilà. Ne gaspillez pas votre douleur. Vous savez, les verbes en français, ce n'est pas évident des fois. Hein? Il faut vraiment les mettre ensemble. Mais utilisez votre douleur pour aider les autres. Mais pour Dieu d'utiliser vos expériences douloureuses vous devez vouloir les partager. Ça, c'est très important. Allons à 1 Pierre 4:10. Oui, et ça, c'est le dernier verset qu'on va voir. 1 Pierre 4, verset 10, ça nous dit. Chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier qui les met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment vraie de Dieu. Voyez, chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent, parce que Dieu ne fait pas de différence entre tout le monde, ok? Chacun de nous a un don, un talent, mais il faut le mettre au service des autres. Savez-vous que Dieu est intéressé à tout dans votre vie? De votre facture d'électricité jusqu'à la réalisation de votre destinée, quand un don, la de Dieu est derrière ces dons. Vous ne devez pas laisser votre bouche vous mettre dans les problèmes, essayant toujours de vendre aux autres votre don. Ne soyez pas dans la peur que votre don ne pourra pas s'exprimer. Le don sera si puissant que vous ne pourrez pas passer un aperçu. Amen. J'ai vu des personnes se lamenter et pleurer sur comment ils ont ces dons surprenants dans leur vie et personne ne donne eux une possibilité. Laissez-moi vous dire, quand ces dons est de Dieu, il va devenir les véhicules pour votre vie. Et ces véhicules est potentiés par l'Esprit de Dieu. L'onction de Jésus est la puissance qui a créé l'univers. Les opportunités vont s'ouvrir devant vous. Vous ne pourrez même pas être retenu parce que Dieu est derrière vous. Amen. Mark Twain relevait une sagesse quand il a dit « Éloigne-toi des personnes qui essayent de ridiculiser tes ambitions. » Les personnes petites font toujours ça. Mais celles vraiment grandes, ils vont te faire sentir que toi aussi, tu peux devenir grand. Amen. Soumets-toi au don de Dieu dans ta vie. Il t'a choisi, il t'a connecté à son amour et il te sert bien fort à son amour. Et il t'a fait un don et t'a donné du potentiel pour voir son plan dans ta vie se réaliser. Amen. Vous savez, il a un plan pour vous. Il a un destiné, il y a un miracle en vous. Mais il ne faut pas se mettre des limitations. Tu veux venir? Merci. C'est vrai, le Seigneur a des grandes choses. Pas seulement pour moi. C'est vrai qu'il avait mon adresse, il savait très bien où j'habitais. Et il est venu me chercher. Mais vous savez, il a votre adresse aussi. Et il a des choses merveilleuses qu'il veut faire avec vous tous. Il ne faut pas se mettre des limitations. Comme vous êtes en train de vous voir, avec vos yeux naturels ou avec les yeux de Dieu. Dieu, vous savez, il voit seulement un miracle en vous. C'est la seule chose qu'il voit. Il ne voit pas des faillites. Vous savez, je me rappelle toujours, il y a une dame que j'écoutais un jour, qui a dit, vous savez, le Seigneur, il ne va pas ouvrir les nuages un jour, il va dire... Oh mon Dieu, encore lui, regarde, les jours que je l'ai choisi, j'ai vraiment choisi une dinde. Non, il ne vous voit pas comme des dindes, ok? Il n'y a pas de dindes dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des miracles. Hein? Alors je voudrais ce matin qu'on ferme les yeux et qu'on pense, qu'on s'examine un petit peu. C'est quoi les limitations qu'on s'est mis? C'est parce que vraiment on est limité ou c'est parce qu'on n'a pas envie de s'engager? On n'a pas envie de donner notre mieux avec le Seigneur. Ou donner notre tout au Seigneur. Amen. Alléluia. Père, merci pour me rappeler les prix puissants que Jésus a payés. Comme ça, j'ai pu être restaurée, ma vraie identité avec toi. C'est en toi que je me vois ce matin, mon Père. Ce n'est pas avec mes yeux naturels. Et c'est comme ça que tu vois toutes les personnes ici ce matin, mon Père. à travers tes yeux. Merci parce qu'en Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu. Puis-je me voir comme toi tu me vois, à travers les seins de Jésus. Aide-moi à voir les limitations que je me suis mis, Père, et aide-moi à les retirer aussi. Aide-moi à marcher dans la foi, dans ta parole aujourd'hui. Merci, Père, pour me faire voir que rien de ce que j'ai pu passer dans ma vie a été du temps perdu. Il n'y a rien qui est un temps perdu. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés et pense les blessures parce que tu nous aimes. Aide-moi à voir comme tu m'as porté à travers toutes ces situations, tous ces moments durs dans ma vie. Et comme ça, moi aussi, je pourrais aider les autres à passer à travers les mêmes situations. Aide-moi à utiliser les dons que tu m'as donnés et toutes les expériences personnelles pour aider mon Église. Père, fais-moi voir comment servir, où servir et comment mieux servir les autres. Ouvre les bonnes portes devant moi. Alléluia. Et je te remercie, Père, aussi, parce que tu vas mettre à côté de moi les personnes qui vont voir et reconnaître les dons que tu m'as mis à moi, mais aussi qui vont m'aider à les faire grandir et à l'utiliser pour ta gloire. Merci, Papa, parce que quand personne d'autre croyait en moi, toi, tu y croyais. Alléluia. Merci parce que tu ne perds jamais d'espoir avec nous. Tu es toujours de notre côté. Merci Seigneur. Et je vous demande justement de vous examiner et de voir c'est quoi le potentiel que le Seigneur a mis en vous. Faites de manière qu'elle ne soit pas gaspillée. Parce qu'il y a du potentiel, il y a un miracle en vous. Et nous avons besoin de le voir. Sans cet potentiel, nous ne sommes pas complets. Alléluia. Mais vous savez, quand nous mettons nos forces tous ensemble, nos capacités, nos habiletés, nos dons, nos talents ensemble, nous sommes en puissance. Et la personne ne pourra plus nous arrêter. Personne. Mais nous devons comprendre que ce que c'est à nous, ce n'est pas pour nous. Nous sommes juste les gérants pour les autres. Alléluia. Merci, Papa, parce qu'il n'y a plus de limitations ce matin. Les limitations sont tombées. Merci, Papa, que ce matin, on se voit des sauterelles ou des chiens morts. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes. Avec toi, mon Père. C'est là que tu nous as mis, mon Papa. Alléluia. Oui, Papa. Nous ne sommes pas rien, nous ne sommes pas un accident. Mais c'est ton amour qui nous a voulu ici. Tu avais besoin de nous. C'est pour ça que tu nous as créés. Tu avais besoin de chacun de nous ici ce matin. C'est pour ça que tu nous as créés. Il a besoin de vous. Vous savez, Dieu est esprit, mais il a besoin de travailler à travers la bouche et les mains de quelqu'un. Et vous êtes ses mains et vous êtes sa bouche. Alléluia. Vous êtes un miracle. Et vous êtes précieux. Vous ne pouvez pas savoir combien vous êtes précieux. Alléluia. Vous êtes bénis, c'est vrai. Mais vous êtes bénis pour être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Papa, je veux prier ce matin pour tous mes frères et mes sœurs. qui vont sortir d'ici, sans limite, sans barrière, sans contrainte, sans frontières, sans rien. C'est des personnes libres. L'image qu'ils ont d'eux, c'est ton image. Ils sont en train de se voir à travers tes yeux, à travers ton miroir. C'est les reflets de toi qui voient en eux. Et Père, ils sont prêts à passer cette semaine, cette belle semaine, cette semaine magnifique avec toi, mon Papa. Je recouvre toutes les paroles qu'on te dit ce matin par le sang précieux de Jésus. Et je déclare que le diable ne peut pas venir à vous les retirer. Vous n'allez pas sortir d'ici en pensant que vous êtes rien, parce que vous êtes quelqu'un. Vous êtes un enfant de Dieu. Merci Jésus. Au Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez besoin de prière ce matin,